Le Corse et l'Auvergnat.
Jérémy Gallon.
Romain Marcilli.
Bonjour Romain.
Bonjour Jérémy.
Mon cher Romain, alors que nous fêtons le 50e épisode du Corse et de l'Auvergnat, je crois que toi et moi souhaitions rendre hommage à notre mixeur Loïc Journaud qui rend chaque semaine ce podcast possible puisqu'il fait un travail remarquable de mixage de nos bandes-sons et nous lui sommes très reconnaissants et nous voulions profiter de ce 50e épisode pour le remercier et lui dire combien nous apprécions son travail qui nous permet et qui vous permet, chers auditeurs, d'avoir votre épisode du Corse et de l'Auvergnat tous les mercredis matin.
D'ailleurs, le Corse et l'Auvergnat se cache donc un Varois. Jérémy, au programme de ce 50e épisode, nous évoquerons évidemment les derniers développements en Russie avec la déstabilisation du régime par la nébuleuse Wagner.
Puis nous nous intéresserons à l'Inde, le pays dont tout le monde parle cette année, pays qui préside le G20. Et alors que le Premier ministre Modi vient de conclure une visite d'État aux États-Unis considérée comme historique et sera l'invité d'honneur de la France pour les célébrations du 14 juillet.
Et nous terminerons par nos coups de cœur de la semaine qui nous amèneront à parler de deux grandes légendes du XXe siècle, Georges Pompidou et Michael Jordan, à travers ta visite du musée Pompidou de Montboudif dans le Cantal, Jérémy, d'une part, et d'autre part, le film Air de Ben Affleck. Jérémy, même si on ne connaît pas encore, très loin de là, tous les tenants et aboutissants de la vraie fausse tentative de coup d'État, non revendiquée comme telle des troupes mercenaires Wagner de Prigogine, un penseur florentin, il y a un peu plus de 500 ans, donnait le conseil suivant à tout prince. Le prince dont le pouvoir n'a pour appui que des troupes mercenaires ne sera jamais ni assuré ni tranquille, car de telles troupes sont désunies, ambitieuses, sans discipline, infidèles, hardi envers les amis, lâche contre les ennemis, et elles n'ont ni crainte de Dieu, ni probité à l'égard des hommes, le prince ne tardera d'être ruiné qu'autant qu'on différera de l'attaquer. Ce penseur, c'est bien entendu Machiavel, et si le prince Poutine n'a pas encore été ruiné, des fissures se font désormais peut-être jour dans son règne.
Tu l'as dit, je crois qu'il est très tôt pour tirer des conclusions sur ce qui s'est passé au cours du week-end en Russie. Et justement, l'ADN de notre podcast, qui est d'essayer de prendre de la hauteur, du recul, et fait que d'ailleurs, on a nous-mêmes hésité à parler de ces événements si récents. Je pense qu'ils ont pour premier mérite, et tu viens de le démontrer, de nous prouver que la pensée de Machiavel s'applique au-delà des frontières et au-delà des siècles. Le deuxième enseignement que nous pourrions tirer, c'est qu'en fait, cette guerre en Ukraine, depuis qu'elle a été lancée le 24 février 2022, a quand même mis à bas un certain nombre de mythes fondateurs de la Russie poutinienne. Un des premiers mythes fondateurs, c'était cette quasi-invincibilité de l'armée russe. On en faisait probablement la deuxième armée la plus puissante du monde. Alors je pense qu'il faut être toujours très nuancé. Ça n'est pas parce que, effectivement, c'est une armée qui a connu des désillusions très importantes durant la première année de campagne militaire qu'il faut aujourd'hui la sous-estimer. On voyait bien qu'elle a considérablement appris de ses erreurs, qu'elle était capable de contenir la contre-offensive ukrainienne au cours des derniers jours et dernières semaines. Mais néanmoins, ce mythe d'une armée qui se serait emparée en quelques jours de Kiev s'est effondré. De la même manière, il y avait un petit peu ce mythe d'une verticalité du pouvoir poutinienne qui contrôlait tout en Russie, qui était capable de jouer de main de maître sur les différentes factions du pays qui se divisaient entre elles. Et peut-être ce qu'a montré le coup de samedi dernier, c'est que même ce mythe est peut-être un petit peu plus fragile qu'on ne le pensait. Alors ensuite, je pense que sur les conclusions de long terme, il est extrêmement difficile de savoir ce qui va se passer. Est-ce que Poutine va à court terme se servir de cet épisode pour affermir son pouvoir? Est-ce qu'au contraire, il va vraiment être déstabilisé? Est-ce que Wagner va continuer d'exister? Est-ce que la milice va être complètement reprise en main par le GRU? Est-ce que Prigogine va continuer d'être un acteur majeur? Est-ce qu'il va être assassiné dans les jours, les semaines, les mois qui viennent? Je crois que personne n'est capable de répondre à ces questions. Juste, tu faisais une référence historique et littéraire à Machiavel. Une autre que j'ai lue sous la plume de l'excellente correspondante Isabelle Lasserre, c'était un parallèle fait avec la figure de l'Oprichnik. Et toi qui t'intéresses à l'histoire, ça va t'intéresser. L'Oprichnik, c'était l'un des cavaliers en noir qui servait sous Ivan le Terrible, le tsar, et faisait régner la terreur. Et alors le pacte qui était noué avec le tsar, c'est qu'ils avaient la liberté de piller, de tuer, de violer et d'exercer toutes sortes de brutalités, mais jamais au grand jamais de défier le tsar dont il dépendait entièrement. S'il défiait le tsar, alors la sanction ultime était prise à leur égard. La question est donc de savoir si Prigogine et la milice Wagner, ce sont finalement les oprichniks des temps modernes du tsar Poutine.
Dans les moments où on se pose plus de questions par rapport aux réponses qu'on peut donner, il faut effectivement se raccrocher à la littérature et à l'histoire. Dans ce chapitre 12 que je mentionnais du prince de Machiavel, Machiavel donne beaucoup d'exemples. Et il y en a un qui peut-être nous parle particulièrement à nous Français, car ça donnait lieu à un très grand roman. Je cite Machiavel, quant aux troupes mercenaires, on peut citer de l'Antiquité l'exemple des Carthaginois qui, après leur première guerre contre Rome, furent sur le point d'être opprimés par celles qu'ils avaient à leur service, quoique commandées par des citoyens de Carthage. Alors ça, c'est bien sûr ce qui inspira à Flaubert le magnifique roman Salammbô, donc où on assistait effectivement à un retournement d'une milice qui, de fait, opérait une milice de mercenaires qui opérait la guerre pour Carthage, qui finalement s'est retournée contre le pouvoir de Carthage. Bien sûr, l'histoire est pleine de ces exemples-là. On peut dire que l'histoire est une éternelle répétition. En France, il y a un moment dans l'histoire où on a connu une telle fronde aussi contre le pouvoir. C'est justement ce qu'on appelle la fronde durant la régence de Louis XIV. Dumas le raconte magnifiquement dans les derniers chapitres de 20 ans après, le deuxième volume des Trois Mousquetaires, dans ce moment dans lequel une partie de la noblesse associée à la bourgeoisie parisienne s'est révoltée contre Mazarin et la régente Anne d'Autriche. Alors comment ça s'est terminé, quand c'est comme ça? Par une négociation, par un accord, par un deal, si on voulait parler à la Trump. Et dans les frontes de ce type, on sait que ça se termine souvent comme ça. Surtout quand le rapport de force est assez équilibré. Ça se termine par une négociation, et qu'est-ce qu'on négocie? De l'argent, des responsabilités et du temps, en vue d'autres mouvements ultérieurs. Et on est peut-être dans ce moment où on assiste à ce type de négociation. Je ne sais pas si vous avez vu l'excellent documentaire Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine, d'Alexandra Jousset et de Ksenia Bolshakova.
Tout à fait.
Qui avait remporté le prix Albert Londres l'an dernier. C'était vraiment un film très éloquent et terrible sur cette organisation, qui a vraiment trois piliers dans son action: se battre, s'enrichir et puis désinformer. Je trouve que c'était quelque chose qui m'avait, puisque je travaille dans les médias, particulièrement intéressé. Ils désinforment à travers vraiment un groupe de médias derrière eux, qui s'appelle d'ailleurs Patriotes. C'est une galaxie de quasiment 150 médias qui discréditent tous les ennemis du régime. Ils ont leur propre agence de presse, qui s'appelle Riafan, qui produit des millions d'informations. Enfin, ça mène à des millions de pages vues par mois. Il y a des fermatrolls, des deepfakes produites de manière industrielle et assez qualitative, malheureusement pour du deepfake, et puis une nébuleuse présente sur de nombreux territoires, bien évidemment en Russie, Ukraine, mais surtout en Afrique, des pays desquels on a déjà parlé, Madagascar, Mozambique, Soudan, Libye, et là ils peuvent vraiment s'enrichir. Et c'est intéressant de voir cet affrontement, ce rapport de force entre un État traditionnel extrêmement puissant, en tout cas que l'on pensait extrêmement puissant comme la Russie, et puis une armée de mercenaires très puissante d'un autre ordre. Et effectivement, autant on en a des traces dans l'histoire et dans les romans, bien sûr il y a eu des aventures mercenaires ces dernières décennies, pensons à Bob Denard par exemple, qui ont pu défrayer la chronique, mais avec cette importance géopolitique, je crois qu'il n'avait pas encore eu, en tout cas pas de notre vivant, on va dire.
Oui, et deux autres points sur lesquels moi j'aimerais juste dire un mot. Le premier, c'est que c'est toujours intéressant dans ces moments de crise aiguë de voir comment les alliés ou autres puissances géopolitiques réagissent. Et ce qui a été très frappant, c'est que tu as un certain nombre de puissances qui, historiquement, ont été très proches de Moscou, là, qui ont fait preuve d'une grande réserve lorsqu'il y a eu les événements. Et je pense notamment au Kazakhstan, qui est probablement dans l'Union économique eurasienne, aujourd'hui la principale puissance, qui est un pays qui, en Asie centrale, joue un rôle majeur, essaie d'être un petit peu un pilier, un point d'équilibre. Et le président Tokayev, lorsqu'on lui a demandé de réagir sur le coup samedi, alors que les événements se déroulaient, a dit que c'était un problème intérieur russe. C'était une manière pour lui de ne pas s'exposer et de ne pas affirmer son soutien direct à Poutine. Et donc ça, ce n'est pas une surprise, c'est le signe d'une évolution que l'on a observée maintenant dans la diplomatie du Kazakhstan au cours des 12 derniers mois, d'un pays qui essaie d'être de plus en plus indépendant. Et ça, on l'observe dans un certain nombre de pays, y compris ceux qui faisaient partie de l'Union économique eurasienne, qui aurait dû être en fait le point d'ancrage géopolitique de Moscou. Ça, c'est la première observation. Et puis la deuxième observation, c'est quand même que lorsque on s'est aperçu que la milice Wagner prenait des positions un petit peu partout, il y a quand même eu un sentiment d'inquiétude, je pense, réel dans un certain nombre de capitales, y compris occidentales, qui combattent Moscou dans le cadre de la guerre en Ukraine, indirectement, notamment par rapport à la question nucléaire. Parce qu'il y a quand même un vrai sujet, si tu as une milice comme Wagner qui prend contrôle de sites où potentiellement il y a des têtes nucléaires. Or, à Rostov-sur-le-Don, par exemple, dans la proximité de Rostov-sur-le-Don, tu as toute une série de têtes nucléaires qui sont positionnées. Et donc ça, ça suscite quand même des inquiétudes. Et ça pose en filigrane la question, et même si on n'en est pas du tout là encore, mais si demain tu avais la chute du pouvoir de Poutine, quelle est sa succession ? On peut bien évidemment, tout en s'opposant complètement à la politique impérialiste de Poutine et à la guerre en Ukraine qu'il mène, considérer qu'une instabilité complète de la Russie serait aussi source d'inquiétude majeure pour le continent européen, pour le monde dans son ensemble, et source d'une déstabilisation dont on ne maîtriserait pas les conséquences. Et ce que ça a montré l'espace de quelques heures, c'est quand même aussi ces questions. C'était juste deux points où il y a finalement plus de questions là encore que de réponses, mais qui me semble important d'avoir à l'esprit.
Oui, c'était un peu étonnant de voir des commentaires en Occident s'enthousiasmer presque pour la chevauchée de Wagner. On est quand même face à des néo-nazis, des gens extrêmement violents, enfin qui ont montré une violence totale, faisant fi des règles les plus élémentaires de la guerre dans leur œuvre en Afrique. Donc bien sûr, Poutine, je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus. On sait très bien que son œuvre des derniers mois est absolument catastrophique et dramatique pour l'équilibre de l'Europe. Mais bon, c'est difficile quand même de s'enthousiasmer pour des personnes qui ont l'air encore plus extrêmes et dingues que lui. Et puis, je trouve que certains commentaires ont été, surtout le premier jour, le samedi, un peu définitifs sur le fait que c'était un peu la fin de Poutine. Peut-être que ça le sera, soulever toutes les questions. Mais encore une fois, l'histoire nous montre que parfois, ce genre de fronde avortée débouche sur un renforcement du régime. Et encore une fois, si on veut faire référence à la fronde sous la régence de Louis XIV et d'Anne d'Autriche, tout cela s'est quand même terminé par un renforcement de la monarchie et la naissance de la monarchie la plus absolue en France. Alors bien sûr, Poutine n'est pas du tout, par son âge, comparable au jeune Louis XIV, mais on ne sait pas tout ce que cela peut donner. On verra bien. En tout cas, Jérémy, aujourd'hui, on vous laisse tout parler d'un pays qui est proche de la Russie. Alors, les événements ont fait qu'on parle bien sûr de ce qui s'est passé le week-end dernier avec Wagner, mais on voulait parler d'un pays qui est proche de la Russie, mais qui n'est pas que proche de la Russie, c'est l'Inde. Est un pays qui est très intéressant, assez méconnu avec ce paradoxe indien. C'est la plus grande puissance démographique du monde, 1,4 milliard d'habitants. L'Inde a dépassé la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde. C'est aussi, et ça pour les rapports géopolitiques, la première diaspora au monde. Dans les 300 millions d'expatriés dans le monde, il y a à peu près 18 millions qui sont indiens, aux Émirats Arabes Unis, aux États-Unis notamment. Mais pourtant, on parle assez peu de ce pays. Alors, est-ce que c'est la relative faiblesse de leur soft power en Occident, puisque bon, le cinéma, la musique, le sport, on ne parle pas beaucoup d'Inde, alors un peu de gastronomie, mais je ne sais pas si tu as beaucoup d'amis qui regardent des films de Bollywood, enfin moi je n'en connais pas, en sport, ben, ce n'est pas ça. Donc sur des axes assez majeurs du soft power, ils ne sont pas là. Alors le soft power ne se résume bien sûr pas au cinéma et au foot, et la diaspora est un magnifique exemple de soft power, donc l'Inde a beaucoup d'atouts en la matière, mais il y a quand même ce paradoxe entre une énorme puissance et un pays dont on parle assez peu, alors que son empreinte géopolitique ne cesse de croître.
Tu as bien résumé la situation. Il y a ce paradoxe absolument incroyable que l'Inde est aujourd'hui le pays, quand tu vas à Washington par exemple, dont tout le monde parle, qui est vu comme le grand pays d'avenir, la puissance sur laquelle il faut miser. Tu as aujourd'hui un optimisme dans les élites indiennes qui est absolument immense. Et en même temps, en France, notamment, on en parle très peu. Et donc, je crois qu'on voulait un petit peu revenir sur ce paradoxe et aussi essayer de comprendre pourquoi il y a un moment indien sur le plan géopolitique aujourd'hui. Tu l'as dit, il y a des facteurs très structurels. D'abord, le poids démographique de l'Inde, une alliance avec les États-Unis qui est en train de considérablement se renforcer, alors que historiquement, tu le rappelais également, l'Inde a été beaucoup plus proche de la Russie. Alors ça s'explique notamment au moment de la guerre froide par le fait que les États-Unis étaient vus comme soutenant et équipant militairement le frère ennemi, la dictature militaire pakistanaise. Et on avait, dans un épisode précédent que nous avions consacré à Henry Kissinger, rappelé qu'en 1972, le rapprochement avec la Chine des États-Unis s'était fait par l'intermédiaire du Pakistan. Et donc, ce lien entre Karachi et Washington a pendant longtemps empêché, en fait, le lien de se raffermir entre New Delhi et Washington. Par ailleurs, les Indiens, c'était un des pays qui menait le mouvement des non-alignés. On se rappelle évidemment la figure de Nehru, mais plus généralement au sommet de la guerre froide en 1961, c'est un des pays qui met en avant le mouvement des non-alignés. Et puis, encore aujourd'hui, la doctrine officielle de la politique étrangère indienne, c'est une politique de neutralité. Pour autant, il y a eu une vraie évolution au cours des dernières années qui est liée à plusieurs facteurs. D'abord, si tu regardes côté américain, tu t'aperçois que face à la Chine, le pays qui par définition peut être et doit devenir le principal allié, capable de contenir militairement, économiquement la Chine, c'est par définition l'Inde. Et un certain nombre de conseillers de Joe Biden, et je pense notamment à Kurt Campbell, qui est un des conseillers sur le plan diplomatique les plus influents du président, qui est le coordinateur en charge de l'Asie-Pacifique dans le Conseil à la Sécurité nationale, qui est l'architecte de l'alliance AUKUS, qu'en France on connaît pour de mauvaises raisons, et quelqu'un qui est très très attaché à cette relation bilatérale, il considère et affirme que c'est la relation tout simplement bilatérale la plus importante aujourd'hui pour les États-Unis. Tu le vois également sur le plan économique, c'est-à-dire qu'à un moment donné où un certain nombre d'entreprises américaines essaient de réduire leur dépendance à la Chine, eh bien l'Inde devient le pays où elles remettent une partie de leur production. Ce qui est très emblématique, c'est Apple. Apple était par définition la société américaine qui était probablement la plus exposée, la plus liée à la Chine. Eh bien, la nouvelle génération d'iPhone sera produite dans le sud de l'Inde. De la même manière, Micron, géant américain des semi-conducteurs, a aussi annoncé des investissements massifs en Inde. Tu vois donc toute cette évolution. Et puis, côté indien, eh bien, tu vois aussi un basculement qui est lié au fait que, notamment, la guerre en Ukraine a révélé aux Indiens que leur hyper-dépendance à l'armement russe était finalement une vraie menace pour eux à long terme, parce que dans un art du conflit où la maîtrise technologique devient absolument critique, l'Inde ne peut pas se permettre de se reposer sur un fournisseur d'armement dont la guerre en Ukraine a révélé certaines fragilités. Et donc, tu as de plus en plus d'achats d'armement de l'Inde auprès des États-Unis. Et puis, l'Inde voit aussi ce renforcement des liens économiques avec les États-Unis comme une manière d'avoir des transferts de technologie accru vers l'Inde. Et je terminerai juste par le fait que depuis 2018, tu as eu un vrai changement, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les États-Unis étaient assez réticents à exporter de la high-tech et des technologies très sensibles vers l'Inde. Et en fait, depuis 2018, ils ont accordé à l'Inde un statut similaire à la Corée du Sud et au Japon. Et donc, tu as aujourd'hui des transferts massifs de technologies, y compris les plus sensibles dans le domaine militaire.
Alors, les liens sont de plus en plus forts. Tu sais que j'insiste souvent sur la démographie, et en l'occurrence sur le poids de l'immigration. Il y a une donnée qui est quand même frappante. L'an dernier, aux États-Unis, quasiment trois quarts, 73% des visas H1B américains qui sont destinés aux travailleurs qualifiés dans des métiers spécialisés, donc des visas vraiment destinés à une main-d'œuvre intellectuelle, notamment de haut niveau, ben, les trois quarts de ces visas ont été attribués à des personnes nées en Inde. Et aux États-Unis, alors on pourrait dire dans d'autres pays, mais aux États-Unis, c'est assez frappant, les migrants indiens sont sûrement le groupe de migrants ayant le revenu médian le plus élevé, quasiment le double de la moyenne nationale. Donc, il y a quand même, via cette immigration très qualitative, des liens naturels qui se font. Alors, bien sûr, l'Inde, Commonwealth, histoire coloniale et langue commune, mais je trouve que l'angle démographique permet toujours de voir aussi la force. Mais moi, ce qui m'étonne, ce qui m'intéresse, et je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, c'est cette figure quand même qui demeure un peu trouble de l'Inde. Certes, aujourd'hui, tu as rappelé les liens militaires, économiques avec les États-Unis, En Occident, parfois, on traite un peu de populiste, mais le mot étant mis à toutes les sauces, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais on va dire qu'il n'y a pas, par définition, la même conception de la démocratie que celle qu'on peut avoir. Je crois qu'aujourd'hui, les États-Unis et l'Inde sont beaucoup plus dans une approche réaliste et passent outre ces difficultés. Mais c'est justement ça. Est-ce qu'on ne serait pas en train de refaire avec l'Inde les mêmes erreurs, je mets ça entre triple guillemets, que l'on a fait en Occident il y a quelques décennies avec la Chine, c'est-à-dire un rapprochement avec un pays qui n'a pas forcément les mêmes normes démocratiques que les nôtres. Alors, l'Inde et la Chine, c'est bien évidemment extrêmement différent, mais tout de même, dans un pays qui a un pouvoir qui est quand même de plus en plus dur, nationaliste, notamment dans le traitement interne des minorités en Inde, notamment les minorités religieuses, catholiques ou musulmanes.
Alors, tu soulèves beaucoup de questions absolument essentielles, mais permets-moi d'abord de revenir, avant de m'interroger sur la figure de Modi et sur, finalement, ce qu'est cette relation aujourd'hui entre l'Inde et les États-Unis, sur la question du soft power indien. Et je pense que tu doutais que j'allais un petit peu réagir à ce point, même si tu as mis des caveats dans ton introduction. D'abord, je partage entièrement le point avec toi que le poids de la diaspora indienne est absolument considérable. On parle de 4 millions de personnes aux États-Unis et on parle effectivement, tu l'as dit, d'une diaspora extrêmement qualifiée, à haut revenu, mais qui est particulièrement influente dans un des cœurs du pouvoir américain, c'est la Silicon Valley. Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que si tu regardes les principales entreprises de la Silicon Valley, ceux qui sont les géants de la tech américaine, beaucoup sont dirigés par des PDG indiens. J'en cite quelques-unes. Microsoft, Satya Nadella. Google, le PDG, c'est Sundar Pichai. Twitter, avant Elon Musk, c'était Parag Agrawal. Et on peut aussi mentionner IBM, Adobe, VMware, Vimeo et bien d'autres qui sont dirigés par des leaders indiens. Donc il y a une influence des dirigeants indiens dans la Silicon Valley qui est absolument considérable, qui a des racines notamment dans la qualité de la formation au métier de la tech et de l'informatique en Inde, avec un certain nombre d'instituts à Bangalore, à Ahmedabad, etc., qui forment d'excellents ingénieurs, une culture du travail. Il y a plein de facteurs qui expliquent pourquoi ils ont un tel succès. Mais ça joue un rôle très important. Deuxièmement, sur le soft power, je serais un peu plus nuancé. Effectivement, on n'a peut-être pas beaucoup d'amis qui regardent des films de Bollywood, mais je pense qu'il y a un peu un biais français, un biais latin, je dirais, à l'égard de la culture indienne. On est beaucoup moins exposé, par exemple, à la culture indienne que nos amis britanniques, pour des raisons historiques évidentes. Mais par exemple, le cinéma de Bollywood a une influence considérable, pas simplement au-delà du subcontinent indien, mais dans le Golfe, historiquement dans certains pays africains. Je rappelle par exemple qu'en 2018, le film, un des grands succès de Bollywood, Secret Superstar, a été le film d'importation le plus rentable en Chine. En Chine. Sur la question du sport, effectivement, les sports que toi et moi suivons, l'Inde n'est pas un acteur majeur. Ça, je ne vais pas revenir dessus. Mais un sport qui est très suivi dans certains pays, c'est le cricket, où là, l'Inde a une influence majeure. Sur la diaspora, on a beaucoup parlé de la diaspora aux États-Unis, mais c'est aussi une diaspora en Afrique. Il y a un certain nombre de pays africains, je pense notamment à l'Afrique de l'Est, Madagascar, le Kenya, l'Ouganda, où les élites économiques sont très souvent d'origine indienne. Donc ça joue un rôle aussi très important. Et puis quelque chose, alors pareil, toi et moi, ça ne nous parle pas trop, mais j'ai trouvé très symptomatique que lors de sa visite d'État aux États-Unis, Narendra Modi, donc le Premier ministre indien, a participé à une séance de yoga à New York. Et ça n'est pas rien, parce que le yoga, c'est aujourd'hui une pratique qui est diffusée dans l'ensemble du monde. Et surtout, il a obtenu que le 21 juin soit reconnu par une résolution des Nations Unies comme la journée internationale du yoga. Et donc, en fait, c'est aujourd'hui un outil de soft power pour l'Inde. Modi, qui est quelqu'un, c'est un dirigeant qui est connu notamment pour son art de la communication, pour sa maîtrise justement de ses outils de soft power, ne s'y est pas trompé et a participé à cela. Et puis, évidemment, quand Modi va à l'étranger, il joue sur cette diaspora. Dès 2015, il réunissait quasiment le stade entier à Wembley à Londres pour un meeting. Et aux États-Unis, il a fait des rassemblements extrêmement importants. Donc tout ça fait qu'il y a, à mon avis, un vrai soft power indien.
Oui, non, mais je ne le rendais pas néant. Puis même si ce n'est peut-être pas aussi important que certaines entreprises de la Silicon Valley, n'oublions pas que le Premier ministre britannique est d'origine indienne aussi.
Tout à fait.
Sur le sport, bon, certes, le cricket, mais il y a un mystère indien dont on ne parlera peut-être pas aujourd'hui. Mais tout de même, c'est un pays qui n'a jamais eu plus de 10 médailles lors d'une Olympiade. Ils ont eu, dans leur histoire, en tout, 10 médailles d'or. C'est un pays qui a un milliard d'habitants. Il faudrait se poser la question. Bon, certes, le cricket, bon, je crois que le cricket, sauf de ma part, je ne suis même pas sûr que ce soit un sport olympique, je ne crois pas. Mais comment une telle ressource humaine peut produire si peu de résultats dans le sport. Qu'est-ce que ça dit de la vision du sport, de la vision de la performance? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une vraie question. Sur l'Inde, il y a aussi un point, si on parle non pas de soft power, mais de hard power, qu'on ne peut pas ne pas évoquer, c'est quand même le rapport avec la Russie. Alors certes, tu as bien sûr mentionné le fait que c'était un pays qui était non aligné, mais les pays non alignés, c'est souvent des pays qui étaient de fait alignés sur le socialisme durant la guerre froide. Bien après la guerre froide, les rapports se sont poursuivis avec la Russie, qui est le premier fournisseur en armes de l'Inde. Aujourd'hui, il y a cette nouvelle relation très forte qu'on a décrite avec les États-Unis. Est-ce que finalement l'Inde, c'est pas le pays qui, par sa vision de la diplomatie, et il y avait une très longue et assez intéressante interview du ministre des Affaires étrangères de l'Inde dans The Economist, est-ce que c'est pas le pays qui finalement revendique, assume le plus une diplomatie fondamentalement multipolaire?
Tout à fait, et je crois que là tu soulèves un point qui est extrêmement important, et tu fais référence au ministre des Affaires étrangères indien, Subramanian Jaishankar, qui est moi une figure qui m'intéresse énormément, parce que je pense que c'est peut-être aujourd'hui sur la scène internationale le ministre des Affaires étrangères le plus structuré intellectuellement. Et c'est un des vrais tenants de l'école réaliste aujourd'hui. D'ailleurs, dans son long entretien à The Economist, Kissinger lui rendait hommage. C'est le seul ministre des Affaires étrangères qu'il citait, parce que Jaishankar est quelqu'un qui a eu une très longue carrière de diplomate derrière lui et quelqu'un qui a vraiment théorisé une pensée réaliste, alors qui s'inscrit dans un héritage très ancien, mais il avait publié il y a quelques années un ouvrage, The Indian Way, dans lequel il décrit effectivement un monde multipolaire de, pour utiliser son terme, de frenemies, c'est-à-dire qu'un monde où il n'y a ni ami permanent, ni ennemi permanent, mais finalement, la diplomatie indienne doit constamment évoluer avec des alliances mouvantes. Et en cela, il s'inscrit dans des propos que tu aurais pu avoir dans la bouche d'un Kissinger, d'un Lord Palmerston durant l'Empire britannique, ou même d'un Charles de Gaulle plus récemment. Et donc, je crois qu'il y a effectivement une diplomatie indienne qui est aujourd'hui hyper réaliste, au même moment où l'Inde est le premier importateur de pétrole russe, y renforce, sur le plan de la défense, leur alliance avec les États-Unis. Ils n'ont jamais condamné l'invasion russe en Ukraine, mais effectivement, ils jouent un rôle aujourd'hui de plus en plus clé avec l'Occident. Donc, tu vois bien un Modi qui, à cet égard, fait preuve d'une grande flexibilité. Je dirais aussi que c'est très intéressant parce que les Indiens ont aujourd'hui une politique étrangère réaliste, l'assument complètement. Là où les États-Unis font preuve d'une politique étrangère réaliste, et c'est pas moi qui suis un défenseur de la réelle politique en politique étrangère qui vais accabler nos amis américains pour cela, et pourtant tu sens bien que les Américains n'osent pas vraiment l'assumer. Et donc c'est aussi très intéressant, et là tu reviens quand même un peu à une hypocrisie américaine. C'est-à-dire que, et on parlait de l'Arabie Saoudite la semaine dernière, en 2018, on s'en rappelle, même plus récemment, en 2020, au moment de la dernière campagne présidentielle américaine, Biden promettait de faire de MBS un paria. Bon, aujourd'hui, on voit bien que les Américains font tout pour renforcer les liens avec l'Arabie Saoudite. De la même manière, jusqu'en 2014, Narendra Modi, qui était à l'époque donc le leader du Gujarat, donc cet État indien, était interdit de visite aux États-Unis. Les Américains refusaient de lui accorder un visa parce que considéraient qu'il avait été responsable dans un certain nombre de violences interreligieuses dans son État d'origine. Depuis qu'il est Premier ministre, il est venu à de nombreuses reprises aux États-Unis. C'est un des premiers leaders de l'histoire, après Nelson Mandela et Winston Churchill, à s'être adressé deux fois devant le Congrès américain réuni en session plénière. Il a bénéficié d'un dîner d'État et d'une visite d'État lors de cette visite la semaine dernière à Washington. Et donc, tu vois bien que les Américains ont complètement changé leur position par rapport à l'Inde. Et pourtant, ils n'assument pas vraiment que ce soit réaliste. Et donc, dans tout le narratif, les discours, ils disent oui, finalement, les États-Unis et l'Inde qui partagent ces valeurs de démocratie, les deux plus grandes démocraties au monde, etc. Alors que, comme tu le rappelais très bien au début de l'intervention, ce qu'on a vu aussi depuis le début du pouvoir de Modi en 2014, c'est un certain nombre d'institutions qui ont été considérablement affaiblies en Inde, effectivement des tensions interreligieuses qui se sont considérablement accentuées à l'égard des musulmans, à l'égard des chrétiens. Mais tu sens bien que les Américains, ça a toujours été le problème, et on en avait parlé avec Kissinger, au fond, ils aiment bien se voiler dans un drap de pureté, imaginer qu'ils ont une politique un petit peu idéaliste, alors que dans les faits, ce qu'ils font, c'est quand même du réalisme, et on les comprend.
Ce qui est amusant, c'est lorsqu'on voit les États-Unis, qui, via leur représentant au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, critiquent certaines pratiques, certaines politiques françaises, notamment vis-à-vis des minorités. En fait, envers l'Inde, il n'y a pas de souci. Alors que là, si en Europe, le mot d'islamophobie est mis à toutes les sauces et à mon sens est inepte et même dangereux, en Inde, les minorités musulmanes prennent extrêmement cher. Les minorités catholiques également, d'ailleurs. Hein, de ce point de vue-là, c'est jeu égal. Mais là, on parle vraiment de violences physiques très, très significatives envers ces minorités. Alors bien sûr, il y a également la relation entre l'Inde et le Pakistan derrière tout cela, qui joue beaucoup. Aussi, je ressens, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais toujours méfiance postcoloniale vis-à-vis de l'Occident en Inde. Mais bon, si on pense que la plus grande menace actuelle, c'est l'axe Chine-Russie, et ben, dans ce cas-là, c'est bien sûr essentiel pour les États-Unis, pour l'Europe, de cultiver des alliances qui défendent certains rapports de force. Mais bon, on reparlera de l'Inde bientôt en France, puisque Modi sera l'invité de la France pour les festivités du 14 juillet.
Oui, tout à fait. Et je pense que c'est un pays sur lequel aujourd'hui il n'y a pas assez de travaux, mais en Europe, mais aussi à Washington. À Washington, c'est absolument frappant aujourd'hui. C'était une discussion que j'avais lors de mon dernier déplacement là-bas, où dans la plupart des think tanks de Washington, tu as parfois 10, 15, 20 personnes qui travaillent sur l'Europe, encore plus qui travaillent aujourd'hui sur la Chine. Et le think tank qui a la plus grosse équipe en charge de l'Inde a 6 personnes dans son équipe à Washington. Et en fait, il y a une dichotomie complète entre la faiblesse quelque part de la recherche, de la réflexion sur l'Inde à Washington et en fait ce que pèse la relation bilatérale. Et c'est le cas à Washington, mais c'est encore plus le cas en Europe et en particulier en France. Donc à cet égard, le fait que le Premier ministre Modi soit l'invité d'honneur du 14 juillet de la France est une bonne chose, parce que je pense que, de toute façon, à un moment donné où la guerre en Ukraine a aussi montré combien il y a un fossé qui s'est creusé entre l'Occident et le reste du monde, l'Inde va devenir quand même un partenaire clé pour aussi créer un pont. Juste un point qu'on n'a pas évoqué, mais c'est quand même le poids économique de l'Inde aussi. Et c'était intéressant, dans son discours prononcé la semaine dernière, Narendra Modi rappelait que la première fois, lorsqu'il s'est exprimé devant le Congrès américain en 2016, l'Inde était la 10e puissance économique mondiale. Aujourd'hui, il revient aux États-Unis, c'est la 5e puissance économique mondiale, et dans quelques années, ça sera la 3e puissance économique mondiale. Donc tu as quand même une montée en gamme et une montée en puissance économique de l'Inde qui est extrêmement impressionnante.
C'est spectaculaire, et puis cette montée en gamme se fait notamment, alors certes l'industrie, mais surtout les services. Donc préparons-nous à ce que l'Inde soit très à la mode, à tout point de vue, économique, géopolitique, chez les prochaines années. Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais l'heure est venue de nos coups de cœur. Et Jérémy, on va commencer par ton coup de cœur qui est indémodable pour le coup et qui concerne le président Pompidou chez toi en Auvergne.
Alors, coup de cœur qui me fait particulièrement plaisir parce que tu sais combien j'admire la figure de Georges Pompidou, qui est une figure sur laquelle je travaille en ce moment beaucoup. Et la semaine dernière, je suis parti dans le Cantal, donc au sud de l'Auvergne, ma région natale, avec ma mère. Donc, nous sommes partis dans le Cantal et le but de ce petit périple était quasiment d'aller en pèlerinage sur les terres natales de Georges Pompidou, qui est né à Montboudif. Donc, Montboudif, c'est un petit village du Cantal où Georges Pompidou est né le 5 juillet 1911. Et je voulais profiter de ce coup de cœur aujourd'hui pour revenir à la fois dire combien ces terres natales de Georges Pompidou sont magnifiques, le Cantal et donc ce département du sud de l'Auvergne qui est absolument superbe, très rural. Tu as des hauts plateaux, notamment dans la région de Murat, tu as des grandes diversités de paysages, c'est extrêmement vert, c'est magnifique. Et donc c'est là où est né Pompidou, dont toute la famille était en fait originaire du Cantal. Tu avais donc son père, Léon Pompidou, venait d'un pays qui s'appelait la Châtaigneraie, une mini-région au sein du Cantal, et sa maman, Marie-Louise Chavagnac, était originaire de l'Artense, qui est un pays qui est aujourd'hui entre le Cantal et le Puy-de-Dôme, si on devait reprendre les dénominations actuelles. Et donc, il était né dans une famille très modeste, du côté paternel, c'était des ouvriers agricoles. Alors, son père était instituteur, sa mère était aussi institutrice, mais côté grand-père maternel, c'était aussi une famille d'ouvriers agricoles, mais son grand-père maternel avait un petit peu, c'était élevé socialement parce qu'il était devenu marchand de toile. Et donc, le petit Georges Pompidou, né dans le village de Montboudif, dans la maison de la famille maternelle, qui existe encore aujourd'hui, qui a été une maison qui a été bâtie en 1867 face à la petite église Sainte-Anne. Et c'est là qu'il va passer vraiment les 18 premiers mois de sa vie. Ses parents s'étaient rencontrés, étaient instituteurs dans un petit bourg à côté qui s'appelait Murat. Et puis ensuite, il partira passer son enfance à Albi, où ses parents vont être nommés professeurs. En fait, il y a un musée Georges Pompidou à Montboudif, qui est un musée que je conseille vivement à nos auditeurs, qui a été fondé dans l'ancienne boucherie du village et qui a été inauguré en 1999, qui est un musée absolument formidable pour à la fois revenir sur la vie de Georges Pompidou, mais aussi comprendre le lien qui l'unissait à l'Auvergne. Parce que ce lien à l'Auvergne, il a été extrêmement fort tout au long de la vie de Georges Pompidou. Évidemment, dans son enfance, il retournait tous les étés, passait ses étés dans le Cantal, mais aussi dans sa vie d'homme politique. Lorsqu'il a été d'abord collaborateur du général de Gaulle, il est revenu pour la première fois en 1945. À la Libération, il a accompagné le général de Gaulle lors d'un voyage dans le Cantal. Et puis ensuite, lorsqu'il était Premier ministre, il est devenu à de nombreuses reprises dans le Cantal, lorsqu'il était président de la République. Ça a été sa terre d'élection en 1967. Alors qu'il cherchait une terre d'élection, on lui proposait des circonscriptions dans différents lieux, notamment dans le Lot, à Figeac, où il aurait été élu aisément. Mais lui, la terre à laquelle il était attaché, c'est le Cantal. Et donc, il avait pris la deuxième circonscription de Saint-Flour, terre absolument magnifique. Alors, tu me permettras de revenir, parce que Pompidou écrivait de manière merveilleuse, était pétillant dans son écriture. Et donc, j'aimerais revenir sur quelques citations de Pompidou qui, à mon avis, disent beaucoup de son lien à l'Auvergne et disent beaucoup de la région. Alors d'abord, une citation en 1966 où il parle du Cantal. Lors du voyage que j'ai fait dans le Cantal en juin 1964, et je cite Pompidou, « j'ai survolé en hélicoptère une grande partie du département. Jamais je n'avais ressenti aussi vivement l'impression de la beauté des sites et paysages cantaliens, leur variété, splendeur des forêts de châtaigniers, étendue dépouillée des hauts plateaux, vallée riante de la Serre ou de Fontanges, pente du Lioran couverte de sapins, sommet dénudé du plan du Cantal et du Puy-Marie, la beauté austère des vieilles cités basaltiques, Salers, Saint-Flours, des églises romanes, Mauriac, des châteaux au bord des lacs, la gaieté méridionale d'Aurillac ou de Morse se révèle aux yeux avec une intensité prenante. » Donc tu vois, je pense qu'on ne peut pas mieux décrire la beauté du Cantal. Ensuite, quelques réflexions magnifiques sur l'Auvergnat. En 1970, il dit lors d'un discours, « si l'Auvergnat bouge lentement, quand il bouge, il ne s'arrête plus et il va loin. » C'était intéressant parce qu'en fait, Pompidou, banquier d'affaires, amateur d'art contemporain, quelqu'un qui était vu comme quelque part aussi appartenant à certaines élites parisiennes, a toujours beaucoup joué sur son identité auvergnate. Et c'est aussi fascinant de voir combien dans son parcours politique, ça a été important. Il explique aussi, en 1969, « si l'accueil en Auvergne laisse encore à désirer, c'est que les gens des pays de montagne sont toujours réservés et un peu froids. Mais il y a la contrepartie. La qualité, le sérieux, ce qui n'est pas toujours l'apanage des gens les plus gracieux. » Alors, que les méridionaux prennent cela. Et puis, une citation peut-être plus sur l'avenir de l'Auvergne. « J'ai confiance dans l'avenir de l'Auvergne parce que j'ai confiance dans la capacité des Auvergnats, dans leur bon sens et leur énergie. Ils savent que rien ne se fait sans effort, ni sans patience, mais ils savent aussi qu'avec de l'obstination, on vient à bout de toutes les difficultés. Nous, nous sommes jurés de faire de notre Auvergne une province prospère, à la fois moderne et fidèle à son passé. » Tu t'imagines bien que, évidemment, ça m'a beaucoup plu, ce musée de Montboudif. Et donc, c'est un musée que je conseille vraiment, parce que c'est un petit musée qui est tenu de main de maître par les employés municipaux de la commune de ce petit village. Et surtout, y aller sera l'occasion pour nos auditeurs de découvrir un territoire absolument superbe, où il y a énormément de paysages, de randonnées à faire et puis de formidables communes. Donc c'était mon coup de cœur de la semaine. Mon cher Romain, je crois que toi tu voulais nous parler de quelque chose de complètement différent, mais d'un film de Ben Affleck intitulé R.
Oui, après ce moment de nationalisme
complètement
auvergnat, nous allons voler du Cantal à l'Oregon à travers le très sympathique film R de Ben Affleck avec Matt Damon dans le rôle principal qu'on peut voir sur Amazon Prime. Ce film nous replonge au milieu des années 80 et nous raconte l'histoire de la célèbre Air Jordan, la chaussure, ou plus exactement, l'incroyable négociation d'affaires menée par Nike, à l'époque, pour s'arracher l'image de Michael Jordan, un Michael Jordan très jeune qui vient de quitter le basket universitaire et la Caroline du Nord pour rejoindre la NBA. Alors, Jordan, à ce moment-là, est une étoile montante, mais n'est alors que le troisième choix de la draft NBA. Ce n'est pas la star absolue que l'on va connaître. Quant à Nike, qui a été créé à la fin des années 60, c'est une marque qui, à l'époque, bizarrement, s'essouffle un peu, voire beaucoup, sur le marché de la basket, puisque les parts de marché ne sont pas du tout en sa faveur. Il faut se replacer, ça peut paraître surprenant aujourd'hui, mais à l'époque, milieu des années 80, Converse possède plus de 50% du marché de la basket, devant Adidas qui est à peu près 30%, et Nike arrive seulement troisième avec 17%. La marque, elle est tout simplement vue comme un peu ringarde, et les directeurs marketing de Nike se posent la question, pourquoi un gosse de Baltimore préfère porter des chaussures allemandes, Adidas ? Eh bien, parce que Nike, à l'époque, souffre d'un énorme manque d'incarnation, puisque tout ce qui est rappeur, breakdancer, portent tous du Adidas. Tu n'es pas cool si tu n'as pas de chaussures Adidas. Et en basket, tu n'es pas statutaire si tu n'as pas de Converse, la chaussure des stars, des légendes établies de la NBA. Donc, en parlant de manière marketing, à ce moment-là, Nike n'est ni cool, ni statutaire. Elle est davantage vue comme une marque de footing qui parle très peu aux minorités, minorités dont le pouvoir d'achat commence à être un enjeu absolument majeur, puisque le footing, je cite une phrase du film, le footing, c'est un truc de blanc. Les minorités ne font pas de footing. Donc, Nike rame, et Nike, comme ses concurrents, cherche chaque année des incarnations parmi les nouvelles stars du basket. Ils ont même un chargé de scouting, qui s'appelle Sonny Vaccaro, qui est incarné dans le film par Matt Damon, qui parcourt toutes les salles de basket à la recherche de jeunes, à la recherche de nouvelles pépites, puisque avec moins d'argent et moins d'attractivité, Nike peine à recruter. Et même un troisième, seulement troisième de draft, comme est à l'époque le jeune Michael Jordan, c'est inenvisageable pour Nike, trop haut, ça sert à rien d'essayer. Mais tout cela, c'était sans compter sur la ténacité, l'obstination, considérée presque à l'époque comme de l'inconscience passée supérieure, de ce Sonny Vaccaro, par ailleurs maladif, qui est prêt à faire n'importe quoi pour que son employeur, Nike, recrute ce Michael Jordan, fasse le pari de ce jeune et mette tous ses moyens sur lui, mette all-in, comme on dirait en poker, sur cette étoile à peine naissante. Pourquoi ? Parce que Vaccaro discerne chez ce jeune basketteur bien plus qu'un talent, bien plus que de l'excellence, il y voit de la grandeur. Le mot est frappant. Une grandeur qui pourrait changer la perception de ce sport, le basket, qui est lui aussi un peu en perte de vitesse à ce moment-là. Et donc, je ne vais pas raconter tout le film, mais je ne pense pas spoiler qui que ce soit en disant que Nike et Jordan, bientôt 40 ans après, sont toujours liés. Vaccaro et toute l'équipe de Nike, notamment la direction artistique, vont avoir l'idée de génie, et totalement nouvelle pour l'époque, de produire une chaussure et puis une ligne de vêtements à l'effigie exclusive de ce champion en devenir. Et ça commencera par la fameuse Air Jordan. Alors le pari est osé, il est plus que réussi, c'est probablement le meilleur investissement de l'histoire d'une marque sur un sportif, et puis bien sûr dans l'autre sens, le meilleur deal pour le sportif en question. Ce film est presque une publicité géante pour Nike, qui met bien en valeur, mais il nous plonge, et c'est ça qui est passionnant, dans les coulisses d'une intense négociation. Cela rappelle toute l'excitation de ces compétitions de business, notamment dans la pub, pour convaincre un client, ici Jordan, qu'on est le bon partenaire, et pour cela mobiliser toute la créativité possible, trouver les bons mots, la force de la rhétorique est frappante dans ce film. Et puis cela nous rappelle, au-delà de la pub, au-delà des baskets, que cela vaut souvent le coup de se battre contre les bureaucraties, y compris d'entreprises, quand on pense être dans le vrai. Il se trouve qu'en l'occurrence, Nike était dirigé par un génial industriel, son fondateur, Philip Knight, et c'est bien sûr plus difficile lorsqu'on a pour interlocuteur des comptables d'un fonds d'investissement, mais à l'époque, ça a marché, et dans tous les cas, outre la ténacité, une des très belles leçons de ce film que je conseille est ce constat qui vaut même en politique et en histoire, et qui fait figure toujours de slogan, de motto chez Nike, on se souvient de nous pour les règles qu'on brise.
Merci beaucoup Romain pour ce très beau coup de cœur. C'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et à très bientôt Romain.
Rentrons en partie la semaine prochaine dans les 50 épisodes suivants.
Voilà.
À très vite Jérémy.